France Culture.
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Lorsque l'on pense aux musées, on pense aux visiteurs des musées. On pense moins, a priori, à celles et ceux qui les ont voulu, rêvé, imposé, aux politiques, aux administrations, à l'ère du temps. Oui, on songe moins à ceux qui les ont créés et qui ne sont pas tous très connus du grand public. L'émission Profil perdu rendait hommage à celles et ceux, plus ou moins dans l'ombre, dont les passions et l'enseignement marquèrent leur époque dans de nombreux domaines. Parler des musées sans évoquer Georges-Henri Rivière serait une erreur. En 1990, Paul Chavas proposait une émission en deux volets consacrée à Georges-Henri Rivière.
Profil perdu. Georges-Henri Rivière, 1897-1985. Co-fondateur du Musée de l'Homme, créateur du Musée national des arts et traditions populaires, premier directeur du Conseil international des musées.
Rapace à l'œil bleu, personnage glabre et maigre d'un roman sadien, ascète tenté par on ne savait quel enfer, si ce n'est valet futé de Marivaux, prélat athée ou élégant, ci-devant à perruque mise au rancard, tel, dans son ambiguïté, m'a paru Georges-Henri Rivière, quand, plusieurs années après l'avoir rencontré, pianiste amateur, jazzifiant avec brio, je le retrouvais co-dirigeant du musée d'ethnographie du Trocadéro et membre discret de l'espèce de triumvirat par lequel un peu à Hue et à Dia était piloté le périodique Document, dont je devins l'un des rédacteurs de base. Michel Léris.
Il faut à la fois être, comment dirais-je, le sauveur d'une culture en voie de disparition.
Georges-Henri Rivière.
Et l'ouvrier d'une culture en voie de formation. Et si vous voulez, c'est d'être un peu la situation. Je me trouve dans une situation difficile d'être un conservateur révolutionnaire. Je ne sais pas très bien à quel saint me vouer. Et finalement, voilà, c'est un glinglin, je ne sais pas. Alors, voyez, le vieux s'interroge et finalement n'est pas triste.
Georges-Henri Rivière a compris, et l'un des premiers, je crois, que la muséographie d'aujourd'hui n'est pas simplement une muséographie appliquée à des édifices qui sont des lieux de protection et de mise en valeur des collections, mais que c'est aussi une muséographie appliquée à des sites, à des ensembles qui méritent d'être sur place, d'être conservés sur place.
C'est lui qui a fait le Musée de l'Homme avec Paul Rivet pour l'exposition de 1937. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'à cette époque, n'est-ce pas, le Musée de l'Homme comprenait, incluait l'Europe et la France. Et c'est Georges-Henri Rivière qui a compris le premier qu'il s'agissait là, au moins pour ce qui concerne la France, d'un secteur énorme qui ne pouvait pas se satisfaire d'une petite rubrique à l'intérieur d'un musée consacré à tous les peuples du monde, et que véritablement un pays comme la France se devait d'avoir un musée de tradition populaire qui lui soit particulièrement consacré.
C'est un personnage que j'ai toujours trouvé fascinant, déroutant et, je dois dire aussi, enrichissant. Une extrême passion des objets, c'était là où je crois qu'on peut dire que se retrouver chez lui, se concentrer chez lui, sa vision, sa perception esthétique du monde. Il avait une passion pour ce qu'il appelait, lui, les formes pures, des objets produits par la civilisation traditionnelle, par les techniques traditionnelles, ceux qui symbolisaient cette société paysanne qu'il a fait, peut-on dire, découvrir au grand public et au grand public citadin, mais une grande passion des objets de toutes sortes et des objets les plus modernes, notamment dans la vie quotidienne, c'est-à-dire véritablement un spectre extrêmement large de goût, de passion pour l'objet et, à travers cela, de sensibilités esthétiques. Je ne veux pas donner une image unifiante, alors que ce qui m'a toujours frappé chez cet homme, dans le bon sens du mot et dans tous les sens du mot, c'était son extraordinaire contenu de contradictions.
Je ne crois pas qu'une seule personne puisse le décrire, parce qu'il était tellement à facettes, en même temps la rigueur dans le travail, mais aussi le dilettantisme apparent.
Il était grand. Très grand, il était maigre, il était ascétique, il avait une certaine distinction. Il était un intellectuel très, très ordonné, très soigné, il était maniaque du classement.
Je me souviens de Georges-Henri Rivière à travers ses cravates qu'il avait, qui étaient toujours étonnantes.
Il y avait un peu le désir d'éblouir. Georges-Henri aimait bien qu'on l'aime.
Et il appelait tout le monde petit. Il se comportait comme un... Je pense qu'on peut dire, c'est un peu unique, comme un gourou, comme un maître du Moyen-Âge.
On peut pardonner, je crois, à un homme de cet âge et de cette expérience, le fait qu'il en imposait et que parfois il était un peu tyrannique.
Alors il faisait des jeux de mots très célèbres qui sont, si vous voulez, l'héritage de la période surréaliste, les charades ou les calembours.
Georges-Henri Rivière avait une capacité de travail extraordinaire, qui était... très 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 dur à suivre.
Il avait une qualité d'ascendant certaine, et en même temps, il était à beaucoup de gens insupportable.
C'est quelqu'un qui avait la faculté de se trouver bien partout où il était, de se rendre spontanément disponible et de savoir créer un climat de toute confiance.
Quelqu'un qui aimait plaisanter, qui avait sous des apparences un peu, non pas sévères, mais un peu ailleurs.
Bon, c'était un artiste, en fait.
On dirait qu'il y a une sorte de hasard dans toute ma vie. Peut-être que dans la, La musique était peut-être, je ne sais quoi, dans ma combinaison génétique. Mais tout le reste, j'ai été le monsieur qui dit oui. Comme dans cet opéra, je crois, de Kurt Weill, n'est-ce pas, qui est le Yazager, j'ai dit oui. On m'a dit, eh bien, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas l'école du Louvre ? Georges Sand me disait, ben, j'ai dit oui, je fais l'école du Louvre. Ensuite, on m'a dit, vous devriez ouvrir très au musée Guimet. Vous y feriez une belle carrière. Oh, je dis, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, je me suis occupé d'une sorte d'exposition précolombienne que j'ai réalisée au musée des arts décoratifs, je crois que c'était en 1928, et à ce moment-là, un certain professeur Yves, dont j'ignorais absolument l'existence, et qui était pourtant un grand américaniste dès ce moment-là, m'a fait dire par des tiers, je crois que c'était par le vicomte de Noailles, d'ailleurs par Charles Delain, l'époux de la célèbre Marie-Laure, il m'a fait dire que j'aille le voir. Il m'a dit, j'ai vu cette exposition, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes docteur et sciences? Je lui ai dit, non, je suis un simple bachelier. Cette exposition est intéressante. Moi, j'organise le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui était devenu par la suite le musée d'hommes. Eh bien, moi, je vous engage là-dedans. Rendez-moi votre réponse dans 8 jours. Puis dans 8 jours, j'ai dit oui, parce qu'une fois de plus, j'ai dit oui. Et il en est résulté, évidemment, un certain nombre d'agencements nouveaux, une organisation nouvelle, la création des départements du musée de l'homme, dont un d'ailleurs était réservé à Jacques Soustelle, je m'en souviens bien, et un autre à André Scheffner, enfin le grand musicologue pour lequel j'ai fait créer, naturellement je me suis souvenu que c'était un musicien à ce moment-là, pour lequel j'ai fait créer un département d'ethnomusicologie. Il y a eu toute une série comme ça de créations. Il y a aussi l'arrivée de Griol, qui, avec ce que nous avons fait ensemble pour préparer cette grande mission Dakar Djibouti qui a consacré la découverte des Dogons, toutes les grandes aventures du pré-musée de l'homme, enfin du musée d'ethnographie du Trocadéro, avec, je ne sais pas comment dire ça, par exemple la grande exposition de l'île de Pâques. Pour la première fois, j'ai eu l'idée de mettre des textes sur les murs, peut-être un peu trop à ce moment-là. Ensuite, j'en ai réduit la taille, n'est-ce pas ? Eh bien, on rappelle que cette histoire de grande statue de l'île de Pâques que nous avons pu faire venir du muséum où elle s'ennuyait et s'effritait, cette statue, il fallait la ranger de manière sensationnelle, je me rappelle toujours. J'ai dit, tiens, on va la mettre devant le palais du Trocadéro, on va la mettre sur un tertre gazonné qui rappelle les tertres de l'île de Pâques. Et ça a été un aspect superbe avec un projecteur là-dessus. Pour la première fois, les gens ont vu l'île de Pâques alors qu'ils l'avaient lu dans Loti. Enfin, c'est pour vous dire toutes ces aventures du musée de l'homme avec un côté évidemment fantaisiste, enfin, comme la destruction cérémonielle des mannequins. Peut-être que j'en mettrai maintenant. D'ailleurs, à ce moment-là, nous ne trouvions pas bien qu'on avait trouvé dans des coins. Ou bien l'ouverture des caisses qui n'avaient jamais été inventoriées d'où sortaient des mosaïques de plumes du Pérou, des diadèmes d'or qui étaient là enfouis depuis quelque chose comme 50 ans. Ça, c'est le côté fantaisie, je dirais presque surréaliste de ces épisodes du Musée de l'Homme. Mais par la suite, quand même, on en a vu le sérieux, puisque c'est là qu'aux côtés de Rivet et de savants comme Soustelle ou comme Scheffner ou comme Léris, poète et savant, ben, nous avons pu quand même relancer l'ethnologie française qui s'était enlisée depuis un certain nombre d'années.
François Leroux, j'aimerais que vous nous parliez de la vie de Georges-Henri Rivière. C'est un Parisien, mais pas tout à fait un Parisien.
C'était quand même d'abord un Parisien, parce qu'il était né au pied de Montmartre. Et je crois que toute sa vie, il a considéré qu'il était un enfant du Paris traditionnel. Et quand, à la fin de sa vie, on a joué un morceau de musique en son honneur, on a fait jouer les bruits de Paris.
Les cris de Paris de Jeanne Quin.
Et il est évident que pour Georges-Henri, c'était effectivement Paris, son royaume. Mais il était aussi le petit-fils de paysans, de paysan picard. Et comme toutes ses vacances pendant sa jeunesse avaient été dans la ferme des grands-parents, il avait aussi une ascendance paysanne qui a été importante pour ultérieurement sa connaissance du monde rural. Mais il n'aimait pas beaucoup travailler les sources de la terre. Il avait été un intellectuel déjà dans la ferme de ses grands-parents. Ceci dit, il avait rencontré des paysans intelligents, conteurs, qui lui avaient appris la France traditionnelle. Et je crois que cette double ascendance parisienne et rurale explique beaucoup l'itinéraire et le message et l'œuvre de Georges-Henri Rivière.
Et en même temps, les deux milieux auxquels appartenaient ses parents.
Et également les deux milieux de ses parents, car Georges-Henri sera ultérieurement au carrefour de tous les milieux. Effectivement, son père était un milieu bourgeois, plutôt même grand bourgeois, et sa grand-mère avait une certaine fortune. C'est elle qui lui paiera les fameuses leçons de piano qui permettront à Georges-Henri de devenir ultérieurement l'élève de Coëclin et un des grands amis de tous les grands musiciens de l'entre-deux-guerres. C'était donc l'héritier d'une famille bourgeoise urbaine traditionnelle. Et puis sa mère était effectivement paysanne, mais de souche petite paysanne. C'était des paysans relativement peu fortunés. Et je crois qu'il a beaucoup souffert d'ailleurs de la difficulté qu'il a eue à un certain moment avec sa grand-mère et sa mère, puisque quand son père est mort, les deux femmes sont rentrées en conflit. Chacune voulait récupérer le petit Georges-Henri. Ça devait être un adolescent intéressant. Et alors Maman Lou, voulant effectivement soustraire le petit Georges-Henri de sa mère, il lui a offert des leçons de piano. Et tous les jours, comme il n'y avait pas de piano chez la maman, il y avait un piano chez la grand-mère. Ensuite, Georges-Henri a eu un piano chez lui. Et il venait tous les soirs à 5 heures pour répéter ses leçons de piano. Il était certainement extraordinairement doué. Coquelin, plus tard, dira que de tous les grands musiciens qui ont été ses élèves, c'était le plus doué. C'est certainement dommage que Georges-Henri n'ait pas continué à faire de la musique. Mais enfin, il était, comme vous le savez, de l'équipe de Poulenc, de Darius Milhaud, d'Auric. Il a joué certainement comme eux et à leur niveau. Je tiens d'Henri Sauguet lui-même qui me l'a dit un jour, alors qu'on parlait de musique, que Georges-Henri avait été le plus doué de tous qui avaient fréquenté Coquelin.
Bien entendu, il y a cet amour de la musique qui traversera toute la vie de Georges-Henri Rivière. Mais en même temps, il y a à peu près toujours eu l'amour, l'intérêt pour les arts, pour la peinture. Son oncle a joué un grand rôle.
L'oncle Henri Rivière, dont il accaparera partiellement le nom, au grand désespoir d'ailleurs de l'oncle en question, l'oncle a joué un rôle tout à fait majeur. Alors l'oncle Rivière, qui était à la fois ce peintre amoureux de la ruralité bretonne, qui était un collectionneur d'objets chinois, qui était l'ami de Degas, qui était un photographe fantastique, eh bien cet oncle recevait Henri Rivière tous les dimanches. Et il lui a fait une véritable éducation artistique. Il lui a appris à aimer les objets, le culte de l'objet qui deviendra un des points forts de la muséographie d'Henri Rivière, est né chez Henri Rivière, chez l'oncle. Et il est évident qu'aujourd'hui, Georges-Henri Rivière, en se faisant appeler Henri en même temps que Georges, avait voulu rendre hommage à ce parrainage incontestable.
Sur le plan des études, on sait que Georges-Henri Rivière en a peu fait le baccalauréat de philosophie, mais il a cédé au conseil de Georges Salles et il a suivi les cours de l'école du Louvre.
Oui, il a été à l'école du Louvre, avant d'en être d'ailleurs professeur. Il est évident que sa culture était devenue encyclopédique. Je crois que c'est un des derniers encyclopédiques. Il n'y avait pas de sujet qui ne l'intéressait pas. Il n'y avait pas de sujet où il ne savait pas à peu près toute chose. Georges-Henri apprenait beaucoup en parlant, par une sorte de maïotique qui diffusait sa propre expérience et son propre savoir, mais qui en échange recevait le savoir des autres.
Il a fait des études au conservatoire, quelques années après la guerre, on le trouve dans un milieu assez différent, un milieu de musiciens assez différent.
C'est ça, il a passé, si vous voulez, mais là encore, Georges-Henri a continué à faire tout à la fois. Pendant la guerre, quand il avait 17 ans ou 18 ans, il a été organiste de Saint-Louis-en-Lille. Donc il a fait de la musique classique à ce moment-là. Et puis, pendant la guerre, il était blessé et il est allé se faire soigner dans un hôpital militaire à Calais. Là, il a rencontré un auxiliaire de la médecine militaire qui s'appelait tout simplement Aragon. C'est comme ça qu'il a rencontré son premier surréaliste, son premier grand ami poète. Aragon ne portait pas le nom d'Arago, comme vous le savez sans doute, et il n'était pas médecin, il était médecin auxiliaire seulement. Enfin, il était soigné par Aragon, et à cette époque-là, Calais était envahi par les troupes anglaises, et le soir, les Anglais jouaient des morceaux qui étaient certainement étonnants pour le musicien classique qui était Georges-Henri Rivière. C'était les premiers morceaux de jazz qu'il entendait, et il sera furieusement homme de jazz, puisque vous savez que ultérieurement, au Bœuf sur le Toit, il remplacera Doucet, quand dans le trio Vienner et Doucet, l'un des deux, c'était souvent Doucet qui le remplaçait. Quand Doucet était absent, c'est Georges Henri qui jouait du jazz.
C'est d'ailleurs Georges-Henri Rivière qui a fait connaître au futur directeur des musées de France, à Georges Salles, qui lui a fait connaître Gershwin.
Oui, absolument. Il était, comme Georges-Henri était l'ami de tout le monde, il était aussi l'ami de Gershwin. La première fois que j'ai rencontré Georges-Henri, il n'y a pas tellement d'années, il m'a dit que la première fois que Gershwin avait joué chez lui la Rhapsody in Blue, c'était chez Georges Salles. C'est d'ailleurs Georges-Henri qui avait organisé le concert dans l'hôtel particulier du grand-père Eiffel, puisque vous savez que Georges Salles était le petit-fils de Gustave Eiffel. Et Georges-Henri avait accueilli quasiment chez lui Gershwin, qui voulait prendre des leçons de musique auprès de Ravel. Gershwin considérait qu'il n'avait pas assez de formation. Et comme Georges-Henri connaissait Ravel, comme il connaissait Stravinsky à l'époque, comme il connaissait les plus grands, Gershwin s'est adressé à lui pour que les leçons puissent se faire.
D'ailleurs, dans ces années 20, Georges-Henri Rivière a été l'intermédiaire, le provocateur de tout ce milieu qui est à la fois un milieu de créateurs et un milieu de gens du monde.
Oui, c'était à faire valoir, et c'est presque péjoratif de dire ça, mais je pense
c'était un découvreur.
C'était un découvreur et c'était en même temps un amuseur. Il n'avait pas de métier affirmé entre 1920 et 1930, et il fréquentait les salons, il présentait les uns aux autres. C'est lui qui a présenté Buñuel au vicomte de Noailles, qui a financé les premiers films de Buñuel. C'est lui qui a effectivement présenté Sauguet également au vicomte de Noailles, qui a également fait une commande à Sauguet. Il a présenté aussi un certain nombre de spécialistes des collections anciennes à des gens comme David Veil. Il est devenu assez rapidement le régisseur de la collection David Veil. C'est devenu petit à petit son vrai métier avant qu'il rencontre Henri Rivet. Mais dans le même temps qu'il faisait effectivement ses présentations, qu'il animait les soirées mondaines de la bourgeoisie intellectuelle juive et aristocratique, comme il disait, car il fréquentait les Rothschild, il fréquentait les Noailles, il était en même temps, si vous voulez, comme beaucoup d'intellectuels de cette époque, il aimait les choses qui étaient un peu plus marginales. Et il y avait le jazz, bien évidemment, qui était déjà marginal à cette époque-là, mais il y avait aussi le Casino de Paris, les Folies Bergères, et comme beaucoup de musiciens classiques de l'époque, il fréquentait les Folies Bergères pour se faire un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Joséphine Baker, et c'est comme ça qu'il a composé pour Joséphine Baker un nombre considérable de chansons dont on ne connaît plus aujourd'hui très bien ni le nombre, ni même les titres.
Parler partout d'une femme qui s'est fou, fait la pige à la Vénus Calipige. À ses appâts triomphants, j'en oublie la baisse du franc, le 3%, les impôts, les bêtises d'Hério. Enfin, il y avait une suite, évidemment, mais je ne peux pas vous l'imposer.
C'était important, les Folies Bergères.
Ah, c'était un spectacle. Nous y allions quelquefois avec Michel Léris, car nous apprécions beaucoup ce genre de spectacle. Nous y trouvions quelque chose de sacré, même.
Religion et Folies Bergères. Ce n'est pas tant pour mettre l'eau à la bouche que je me suis complu à décrire ces scènes de nu mondain, nu lascif, nu polisson, nu érotique, mais dans l'espoir d'en souligner le caractère religieux, caractère auquel ne manque même pas l'élément profanatoire. N'en déplaise aux épouses, aux magistrats, aux foules nationalistes, aux cœurs timorés que ce temps rebute, l'esprit de religion ne hante plus les cathédrales catholiques. C'est au music hall, parmi 20 paires de jambes, au son d'un air de Christinée, en un ballet conventionnel et magnifiquement ordonné de tout ce qui fait l'objet de nos désirs charnels qu'il faut aller chercher enfin rendu à l'érotisme cet esprit de religion. Georges-Henri Rivière.
Mon cœur est un oiseau des îles qui ne chante que pour l'amour. Dans tes bras, il trouve l'asile, le nid fragile des plus beaux. Car tout m'enivre quand je t'aperçois, ma joie de vivre, chérie, c'est toi.
Ça a été un moment extraordinaire. C'était le moment de la grande société culturelle, n'est-ce pas ? Dont je me souviendrai toujours, car cette société est morte. Elle est née dans les années d'après-guerre. Et elle s'est éteinte lorsque la crise américaine qui s'est entraînée au reste du monde, n'est-ce pas, qui s'est répandue dans le reste du monde, a mis fin à une forme de mécénat. Quand les gens qui donnaient tout le temps, avec une libéralité extraordinaire, les chèques à Buñuel pour faire le Chien Andalou, à Georges Auric pour écrire ses ballets des fâcheux et autre chose, à Poulenc aussi, etc., ou pour acheter les manuscrits d'Éluard ou d'Aragon ou d'autres écrivains, il y avait toujours un flot de chèques comme ça qui était donné généreusement sans tellement d'exigences ensuite en retour. Ce n'était pas la livrée des musiciens du XVIIIe siècle, les gens qui allaient là, enfin, allaient là en amis. Il y avait toutes sortes de séances extraordinaires. Je me rappelle d'ailleurs la première du Chien Andalou, car là, j'avais été le conseiller de ce film aux côtés de Jean Cocteau. Et alors nous avons eu le plus horrible scandale mondain qui se soit jamais déroulé dans les salons aristocratiques, parce que, enfin, le Chien Andalou, dans sa morale, enfin, ne convenait pas tout à fait à celle des gens qui étaient là en grande partie. Et alors ça fait un horrible scandale, et mon ami Charles de Noailles ne m'en voudra pas de rappeler que pour cette raison, il a été exclu du Jockey Club pendant 2 ans.
L'année 1928 met fin à cette période de Georges-Henri Rivière, non pas à sa vie mondaine, mais à toute la place qu'il donnait au monde et à la musique en particulier.
Oui, l'année 28, c'est l'année de transition complète entre cette vie mondaine qu'il abandonnera en fait. Je crois qu'on peut dire qu'il a continué à fréquenter le monde, qui en particulier l'a aidé à financer ses œuvres ultérieures. Mais il est rentré quasiment en religion en 1928. Tout a changé. Il faut savoir qu'après 1928, il n'a quasiment plus touché un piano. Il n'y avait même plus de piano chez lui, ce qui est tout à fait étonnant.
Et chez ses amis, il jouait.
Il jouait chez ses amis. Il a joué jusqu'au dernier jour de sa vie, puisque un de mes derniers souvenirs, juste avant sa mort, c'est quand il a voulu, effectivement, dans un grand hôtel parisien, jouer un ragtime un soir, alors qu'il était déjà très âgé, et qu'il a joué merveilleusement pendant 3 minutes sous l'œil ébahi de tous les touristes qui étaient là.
Oui, il avait dit au pianiste, « Petit, je suis un confrère, laisse-moi le piano. » Grand tournant dans la vie de Georges-Henri Rivière, c'est la fameuse exposition sur l'art précolombien qui l'orientera vers ce qui deviendra le Musée de l'Homme.
Absolument. C'est un peu par hasard que tout cela s'est fait. Il y avait des objets d'art précolombien dans la collection David Veil. Le musée des arts décoratifs avait envisagé de faire une exposition sur ce thème. On demande à Georges Horry de l'organiser. Et cette fameuse pédagogie de son savoir dont on parlait tout à l'heure, il essaye de la mettre en pratique dès cette première exposition, inconsciemment en quelque sorte, avec un art de la présentation qui est effectivement très, très organisé. Les objets sont placés le plus possible en situation déjà, pas seulement les uns à côté des autres en fonction de leur taille ou en fonction de leur qualité esthétique. Il essaye de faire une démonstration de ce qu'était l'art précolombien et il fait donc une exposition qui a un grand retentissement. Et un certain nombre de personnes s'aperçoivent qu'il y a une sorte de nouveauté dans cette exposition. Et parmi ces visiteurs, le professeur Rivet, qui découvre que l'art précolombien n'est pas pour le moment très connu par le Musée de l'Homme, et que ça serait...
Qui ne s'appelle pas encore Musée de l'Homme.
Qui ne s'appelle pas encore Musée de l'Homme, qui est le Musée d'ethnographie du Trocadéro, et se dit que, puisqu'il vient d'être nommé à la tête de ce musée un peu poussiéreux et traditionnel, et qu'il faut le réformer, on pourrait peut-être faire appel à cet organisateur qu'il ne connaît absolument pas. Il se renseigne auprès du conservateur de l'époque du musée Guimet, on cherche Georges Horry, on ne le trouve d'ailleurs pas immédiatement, et avec un petit peu de dilettantisme, il va rencontrer le professeur Rivet quelques jours plus tard. Et le professeur Rivet l'engage immédiatement et lui dit « Vous êtes sous-directeur du musée de l'Homme ».
Denise Polm-Scheffner était alors une des étudiantes de Marcel Mauss.
Il m'a dit « Allez donc voir au musée du Trocadéro, Rivet recrute des gens, des bénévoles, pour remettre en ordre les collections ». Donc je me suis présenté fort timidement, petite jeune fille bien sage, et on m'a immédiatement mis un balai entre les mains, une blouse sur le dos, et j'ai commencé à balayer les couloirs et à ouvrir ou fermer les caisses, car il y avait alors un grand remue-ménage. D'une part, on mettait en caisse toutes les collections qui étaient en vitrine et dont l'aménagement devait être complètement transformé sous la direction de Rivet, qui était assisté de Georges-Henri Rivière, qu'il avait choisi comme sous-directeur véritablement un coup d'audace, étant donné que Rivière n'avait aucun titre universitaire. Et à ce moment-là, il vivotait comme, mon Dieu, je crois qu'il devait travailler dans une galerie d'art d'Extrême-Orient. Et il ne connaissait évidemment strictement rien aux arts exotiques. Mais il s'y est mis très vite. À ce moment-là, la mission Dakar-Djibouti, dirigé par Marcel Gréaul, se trouvait sur le terrain et envoyait donc au fur et à mesure des collections. Et comme j'avais de vagues connaissances sur des masques africains, on m'a immédiatement donné à ouvrir la charge de toutes ces collections, ainsi que des collections venant de l'exposition coloniale qui s'était tenue à Vincennes en 1931, et Rivière, avec le flair qui lui était bien particulier, avait tout de suite mis la main dessus. Et c'est ainsi que j'ai connu tout de suite des masques Dogon, qui avaient servi à des danseurs qu'on avait fait venir pour l'exposition, sans savoir, bien entendu, que ces danseurs, j'allais quelques mois plus tard les retrouver alors sur le terrain et dans leur véritable milieu. Voilà quels ont été mes débuts au Musée de l'Homme, où régnait une animation extraordinaire, très joyeuse, dans une atmosphère très jeune, où on voyait défiler, mon Dieu, beaucoup de jeunes gens, notamment des surréalistes, à commencer par, je pense, René Crevel, Robert Desnos, Michel Léris, bien sûr, mais que je n'ai connu qu'à son retour de la mission Dakar-Djibouti. Breton, on le voyait un peu moins, n'est-ce pas ? Il tenait ses distances. Alors, métro, bien sûr, et tout cela se faisait dans un enthousiasme et une joie étonnante.
Arrivé en 35, c'est Georges Henri Vierre que j'ai rencontré chez mes amis Henri Monet qui m'a dit venez au musée, on a besoin de bénévoles pour travailler à la photothèque.
Manouk Alaroche.
Donc déjà il y avait Germaine Dieterlin, Solange de Ganay, Hélène Gordon qui travaillaient aussi à la bibliothèque, c'était l'endroit où on mettait les bénévoles.
En 1934, j'ai eu cette proposition de partir au Brésil comme professeur, d'ailleurs de sociologie, pas d'ethnologie.
Claude Lévi-Strauss.
À l'université de São Paulo, où une mission française se constituait. Et là, je suis parti au Brésil avec l'idée bien arrêtée de devenir ethnographe, en commençant, en utilisant les périodes de vacances pour aller sur le terrain, comme on dit dans notre jargon, et rapporter au musée, je crois en 1936, les premières collections que ma femme et moi-même avions constituées. À ce moment-là, alors, c'était le musée de l'homme qui se préparait. Et donc, le bâtiment lui-même était sans dessus-dessous. Et il fallait donc trouver un autre endroit pour présenter les collections. Et je me souviens toujours que Georges-Henri Rivière a décroché son téléphone, appelé la galerie Wildenstein, qui était une grande galerie de peinture, qui a bien voulu mettre sa galerie à la disposition de cette exposition.
Ensuite, ce sera un duo permanent pendant des dizaines d'années, puisque Rivet sera en quelque sorte l'intellectuel, le scientifique du Musée de l'Homme, et Georges-Henri en sera l'organisateur. Et tous les grands ethnologues actuels donnent à l'un et à l'autre le mérite conjoint d'avoir créé ce Musée de l'Homme qu'aujourd'hui on nous envie, parce que c'est quand même une des grandes organisations ethnologiques qui existent dans le monde.
Le Musée de l'Homme est inauguré en 1937 à l'occasion de la grande exposition internationale.
Il est inauguré à ce moment-là, un 1er mai symboliquement, et Georges-Henri et Rivet, à l'époque, ont quelques collaborateurs qui, pour la plupart, ont été découvertes de Georges-Henri Rivière. Et c'est là qu'on rencontre Lévi-Strauss, que Georges-Henri accueille pour sa première exposition au retour du Brésil. C'est là qu'on rencontre Soustel, c'est là qu'on rencontre Michel Léris, c'est là qu'on rencontre Griol, c'est là qu'on rencontre Leroy Gourhan, c'est là que Bataille également se retrouve. Il y avait autour d'eux, et autour de Georges-Henri particulièrement, une série fantastique de personnages qui deviendront ultérieurement tous ces phares de l'ethnologie et de la littérature que je viens de citer. Il n'y a pas de hasard dans ce bouillon de culture fantastique qui naissait du Musée de l'Homme, qui était le lieu où, effectivement, la littérature contemporaine et la recherche ethnologique contemporaine se sont retrouvées.
En même temps que des choix politiques, d'ailleurs.
Alors, il y avait effectivement, sur le plan politique, une vocation très marquée à gauche. Rivet était député socialiste. Georges-Henri Rivière, à l'époque, affirmait en tout cas une sensibilité identique à celle de son patron. Je crois que profondément, Georges-Henri avait une sensibilité d'homme de gauche sans être jamais inscrit à un parti. Et à l'époque aussi, c'était la découverte des pays scandinaves. C'était la découverte de la Russie, où Georges Henri est allé. Et il est évident que l'histoire sociale étant mise en honneur par ces pays, Georges Henri et Rivet ont été aussi des introducteurs de la muséographie historique et du désir de réintégrer l'histoire dans le monde des musées, de retirer aux objets justement leur seule qualité esthétique et de leur redonner la valeur singulière qu'ils avaient au regard de l'histoire. Et ça, c'est très important parce que c'est évidemment toute la muséologie de Georges Henri Rivière qui est née de cette confrontation entre le monde des objets et leur signification historique.
Il y avait de grandes fêtes à l'opéra qui s'appelaient les petits lits blancs. Et il y avait toujours un pont d'argent sur lequel défilaient des mannequins ou bien peut-être des actrices renommées. Enfin. Et alors Georges Rivière a voulu faire un pont d'argent au musée et il a fait défiler des jeunes femmes en paréo, si je me souviens bien. Voilà. Et ça a été aussi une très grande fête, je pense, dans les années 37.
Le musée est devenu un des endroits à la mode de Paris.
Germaine Tillon.
Jean-Ré était un musicien extraordinaire, un passionné de musique, ce qui fait que tous les musiciens de Paris venaient naviguer autour du musée. Et alors, il y avait également tous les gens chics. Et le nouveau musée a été une passion, un amour-passion pour Georges Henri, pour le docteur Rivet et pour la sœur de Georges Henri, qui était Thérèse Rivière.
C'était un rendez-vous, un va-et-vient d'un tas de gens qui travaillaient plus ou moins près avec le musée. C'était surtout un groupe de passionnés, de chercheurs, d'explorateurs, de pas fonctionnaires du tout. C'était tout petit, c'était très familial et c'était passionnant.
Les gens donnaient leur temps et donnaient leur argent pour le musée. Mais Thérèse Rivière et la mère de Georges Henri passaient leur journée et leur nuit à épousseter et à frotter et à noter et à enregistrer.
Les veilles d'exposition ou d'ouverture,
on travaillait 20 heures.
On mangeait des ronds de saucisson à côté des vitrines, on époussetait tout, on essayait de tout ramasser. Et puis quand l'exposition arrivait, on allait enfiler sa robe du soir parce qu'on s'habillait encore dans les water, on se mettait un peu de poudre de riz sur le nez et on surgissait.
Ah oui, je me souviens qu'en effet, Georges Henri exigeait que les femmes soient en robe du soir et les hommes en habit pour les expositions du musée. Je me souviens également du bal Touareg, en costume Touareg, qui avait été organisé par Henri de Montfred. Et Henri de Montfred s'était déguisé en marchand d'esclaves, ce qui avait amusé tout le monde.
Dès que Georges-Henri Rivière collabore avec le professeur Paul Rivet au musée d'ethnographie du Trocadéro, il pense aux différents domaines du futur musée de l'homme et l'un des premiers départements créés est consacré à la musique. Département d'organologie d'abord, puis d'ethnomusicologie, il a aujourd'hui son prolongement dans l'actuel musée national des arts et traditions populaires. Georges-Henri Rivière confie alors ce département à André Scheffner, qui fera ensuite appel à Gilbert Vouget. Mais pourquoi choisir André Scheffner?
Il y a le milieu auquel appartenaient Henri Monet, Gustave Lyon, son fils Robert Lyon, moi-même, la princesse de Polignac et quelques amis. Et dans ce milieu, naviguer avec cet immense talent qu'il avait déjà, n'est-ce pas notre ami André Scheffner? Je ne suis pas qualifié pour en parler. C'était le moment où il était à la fois le biographe et l'analyste de Stravinsky. L'ayant connu dans ce milieu, j'ai pensé qu'on pouvait le transférer dans l'étude des musiques qu'on disait encore exotiques. À ce moment-là, on ne parlait pas encore d'ethnomusicologie, puisque c'est lui qui est l'inventeur du terme. Alors, ça s'est fait assez rapidement, avec cette extraordinaire capacité qu'il avait d'assimiler des problèmes, n'est-ce pas, et de leur donner immédiatement une tournure d'analyse scientifique, le coup a été fait. Nous avons acquis Scheffner dans le pré-musée de l'homme, qui s'appelait alors le musée d'ethnographie du Trocadéro, et immédiatement enregistré dans la mission Dakar-Djibouti. Mais alors, il y a eu l'aventure Griol, qui était vraiment une aventure extraordinaire, parce que Griol, pour moi, c'était un petit savant auquel j'avais donné une blouse noire et qui classait vaguement des livres dans un rayonnage de la bibliothèque naissante du futur musée de l'homme, n'est-ce pas ? Et puis, je ne sais pas pourquoi on en est venu à parler de questions et d'autres. Je l'ai introduit dans différentes familles et il y a une mutation. Griol est passé de cet état de petite blouse noire à l'homme extraordinaire qui a eu l'imagination de lancer cette grande traversée de l'Afrique, n'est-ce pas ? Tout naturellement, ça a mûri aussi. Scheffner est là, on te prend, n'est-ce pas ? Et on l'a pris et il est parti. Il est devenu le Scheffner de la mission Dakar-Djibouti, aussi l'homme qui a tant fait, qui a fait progresser la connaissance de la musique africaine grâce à cet épisode de sa vie.
Alors, l'homme de cette mission Dakar-Djibouti, d'où il a rapporté le premier enregistrement d'Ogon jamais fait au monde, vraisemblablement, car il y avait dans les bagages de l'expédition Dakar-Djibouti, qui était une expédition considérable, il y avait dans ses bagages un instrument à cylindre, et Scheffner, qui s'intéressait bien entendu au rythme, a enregistré toute une série de rythmes joués sur les tambours de bois, et le cylindre en question, enregistré en 1931, a été récemment recopié sur bande magnétique. Scheffner était à Dakar-Djibouti, il a eu la surprise en rentrant de trouver plus qu'un projet, déjà la réalisation d'une phonothèque que Georges-Henri Rivière voulait adjoindre au département d'instruments de musique. Et Scheffner l'a bien sûr développé, cette phonothèque, et il m'a demandé de m'occuper de faire des fiches d'un fond de disques qui n'avait pas encore été inventorié. Autrement dit, mon travail consistait à être payé pour écouter de la musique, ce qui était tout de même bien agréable.
Toute l'ethnologie, quand elle s'est fondée en France, s'est fondée d'une façon très particulière, me semble-t-il, car elle s'est fondée à la fois sur la mise en œuvre de méthodes,
Jean Jamin,
sur une recherche et une affirmation de sa scientificité, comme on dirait maintenant, mais en même temps sur une éthique. N'oublions pas qu'en 1934, après les manifestations de février, Rivet fonde avec Paul Langevin et Alain le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. En 1935, il sera élu député du 5e arrondissement quartier Saint-Victor, et ça préfigure comme type d'élection le Front populaire car il sera élu grâce à des voix communistes. Et grâce à cela, certainement, il fonde le Musée de l'Homme en 1937. Or, ce qui les anime à cette époque-là, au moment où naissent et où se développent les fascismes, je dis bien les au pluriel, car il y en a eu plusieurs, où le racisme est encore et toujours très puissant dans la société française et ailleurs, eh bien, Paul Rivet et Georges-Henri Rivière auront pour souci de faire que ce musée de l'homme devienne un bastion de l'antiracisme, développe une éducation populaire, ayant pour objectif de démonter les préjugés raciaux par des expositions, par des coups culturels, en faisant en sorte que la haute société, ça c'était tout le travail de Rivière, s'intéresse à des choses qui étaient considérées comme primitives et sans intérêt. C'est important car à ce moment-là, c'est par le haut, si je puis dire, que l'on espère que le bas arrivera.
Ces idées de Rivet et de Rivière leur font accueillir un grand nombre d'émigrés ou de gens dont la vie est devenue difficile ailleurs.
Certes, c'est la raison pour laquelle on trouvera Deborah Lifshitz, on trouvera Anatole Levitsky, Boris Vildé, ces deux personnes ayant été à l'origine directe, du reste, en 1940, du réseau de résistance du Musée de l'Homme. J'ai la conviction, que ça n'est, c'est forcément moins, dirais-je, par patriotisme qu'ils ont résisté que parce qu'ils étaient en quelque sorte animés par cette éthique et cette idéologie que le musée de l'homme était censé représenter, je dirais était censé même incarner, qui était l'antiracisme, l'antifascisme, et cette idée aussi que c'est par là que l'on pouvait effectivement intervenir au cœur de la cité, changer les comportements, en tout cas les représentations.
Je me souviens absolument pas d'avoir décidé de résister. C'était un état d'esprit que j'ai partagé avec la plupart ou 80% de mes camarades du Musée de l'Homme et qui tenaient à notre profession que, en somme, que venaient contredire toutes les théories qui nous étaient imposées par le nazisme. Mais enfin, dans l'attitude de résistance, je ne peux pas dire que nous ayons tout d'un coup dit non. Le mot de résistance est parti du Musée de l'Homme.
Je ne crois pas à l'objet en lui-même, mais comme témoin de l'homme. Je suis pour enrôler les objets dans un système d'expression. Il faut les relier à la nature, à la vie de l'homme. Georges-Henri Rivière.
...1937, c'est à la fois l'inauguration du Musée de l'Homme et la naissance d'une partie tout à fait nouvelle dans l'histoire des musées de France, c'est la création du Musée des Arts et Traditions Populaires qui, au début, est toujours abrité dans le Palais de Chaillot et pendant longtemps encore.
Oui, jusqu'en 1966, et dans des caves ou dans des greniers, sans que beaucoup d'expositions puissent être organisées par ce nouveau Musée National des Arts et Traditions Populaires, nom que Georges-Henri n'aimait pas du tout. Il aurait voulu qu'on appelle ce musée le musée français, comme il y a un musée alsacien, comme il y a un musée danois, comme il y a un British Museum, mais la connotation de musée français avait en France une sorte de valeur patriotique que Georges-Henri n'aurait pas voulu qu'on donne à son musée. Donc il a accepté qu'il s'appelle le Musée National des Arts et Traditions Populaires, faute de mieux. Et il a commencé ce musée en 1937, un petit peu sous les sarcasmes, en tout cas avec un certain nombre de réserves chez ses collègues, qui se demandaient pourquoi Georges-Henri collectionnait des cartes postales, aujourd'hui c'est devenu une passion chez beaucoup de gens, collectionnait les bassinoires. On lui reprochait de collectionner des bassinoires et des fers à repasser en fonte. C'est vrai qu'en 1938, il y avait encore beaucoup de bassinoires qui servaient, il y avait encore des fers à repasser en fonte, et que personne ne se rendait compte qu'on était à la veille de la mort d'une civilisation traditionnelle qui durait en fait depuis quasiment 6000 ans, sans qu'elle évolue beaucoup, car à la veille de la guerre, il y avait encore beaucoup de paysans français qui vivaient comme on vivait du temps, non pas des Celtes, mais presque, avec des charrues qui, quelquefois, des arrères dans les pays un peu reculés, qui n'étaient pas tellement différents de la charrue qu'on avait utilisée pendant des siècles. On ne se rendait pas compte que tout cela allait disparaître, et Georges-Henri avait en fait ce message, à l'usage de ses collègues ethnologues, vous allez chercher les Indiens au fond de l'Amazone ou dans les îles de l'océan Indien, et en fait, moi, je vous dis que nos Indiens, ils sont aussi sur place, le monde paysan va disparaître, et il faut qu'on en conserve la trace. Et c'était évidemment totalement prémonitoire, puisqu'aujourd'hui, tout ce qu'il a amassé pendant des années, mais pas seulement des objets, la manière dont on les utilisait, car toute la muséographie de Georges-Henri Rivière n'est pas évidemment de montrer des objets, il est de montrer à la fois des objets et de savoir leur usage. Alors il a collectionné effectivement un tout petit peu seul tous ces objets à partir de 1938, et puis la guerre arrivant, il a pu entreprendre une œuvre tout à fait exemplaire qui aujourd'hui est exploitée par le Musée national des arts et traditions populaires dans une série de publications considérables. Il a permis de soustraire un certain nombre d'architectes qui étaient en chômage du STO et les a embauchés sous couvert d'un chantier intellectuel qui a permis de faire, je crois, 10 000 monographies de fermes et de bâtiments ruraux et également un nombre considérable de monographies de mobilier rural, d'armoires, de coffres. Tout ceci avec une nomenclature extraordinairement scientifique à la manière de Georges-Henri Rivière qui avait un questionnaire pour chacun de ses adjoints qui devait rechercher les dates de création, l'usage de chacune des pièces, le mobilier qu'on y trouvait, avec les objets les plus insignifiants, recherchait également l'usage de chacun de ces objets. Il y a une mine d'informations sur la France rurale à la suite de cette enquête qui est encore et totalement à la disposition des chercheurs et qui n'est que partiellement exploitée à ce jour. Et puis la guerre se terminant, il y aura effectivement ce long périple de Georges Henri pour aboutir à la construction de ce fameux musée qui n'est peut-être pas très bien placé dans le bois de Boulogne. Il n'est pas très symbolique à l'emplacement considéré, mais on ne voulait pas faire ce grand musée avec beaucoup de passion. Vous savez que, en plus, André Malraux, découvrant que Georges Henri avait créé non seulement un musée, mais également un laboratoire scientifique d'ethnologie en même temps que le musée, et ce qui ne correspondait absolument en rien à la vocation que Malraux donnait à un musée, a mis Georges Henri à la retraite quasiment le jour de son âge légal de retraite, et Georges Henri n'a pas terminé la réalisation, officiellement en tout cas, de ce musée. Il a continué à y aller tous les jours, il a tout fait, mais il est évident que tout ceci, il l'a fait un peu contre l'établissement du monde des musées français, qui ne considérait pas qu'un grand musée d'ethnologie contemporaine avait sa place dans le monde des musées.
Profil perdu. Georges-Henri Rivière, 1897-1985, première partie. Une émission de Paul Chabas avec Isaac Kiva, Jean-François Leroux et les voix de Jean Cuisenier, Jean Jamin, Manouka Laroche, Claude Lévi-Strauss, Yvonne Audon, Denise Paulm-Scheffner, Gilbert Rouget, Germaine Tillon et Georges-Henri Rivière. Love is like a cigarette. You know you held my heart of love between your fingertips. Texte de Michel Léris et de Georges-Henri Rivière, lu par Elisabeth Tamaris. Archivina rassemblée par Elisabeth Verrière. Mixage Gilles Pézera, réalisation Daniel Fontanarosa. Love seemed to fade away and leave behind ashes of regret. Then with a flip of your fingertips, it was easy for you to forget. Oh, love is like a cigarette.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 octobre 1990. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».